Bonjour! Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Reporter, La Presse, Le Journal des voisins et UDM Nouvelles. Au programme, Feu au Canada. Pourquoi la forêt boréale brûle si facilement? Pourquoi faudrait-il protéger les langues? La maison Jean Lapointe s'installe à Hunsic. Et une exposition sur le sommeil qui va vous maintenir éveillé. Bonne écoute!
Feu au Canada, pourquoi la forêt boréale brûle si facilement? Un texte de Alexis Gacon, paru le 10 mai 2023 dans la revue Reporter. Feu au Canada, pourquoi la forêt boréale brûle si facilement? Un texte de Alexis Gacon, paru le 10 mai 2023. Depuis le début de l'année, les feux qui ravagent l'Alberta, dont près d'un tiers sont encore non maîtrisés, ont brûlé plus de 350 000 hectares. La saison sans feu est de plus en plus courte là, c'est du jamais vu. Ils finissent à la fin de l'automne et commencent très tôt au printemps, s'étonne Oliver Sonnentag, professeur de géographie à l'Université de Montréal et expert de la phénologie des forêts. La zone boréale, anneau enrobant l'hémisphère nord à partir du sud, du cercle arctique, recouvre un tiers des zones boisées de la planète. Les forêts qui peuplent sa partie canadienne s'étendent sur près de 3 millions de kilomètres carrés du Yukon jusqu'à Terre-Neuve et Labrador. Elles rassemblent loups, orignaux, ours, castors et la moitié des espèces d'oiseaux du pays. Une paisible étendue ravagée par les flammes, près de 30 000 personnes, dont 5 000 membres des communautés autochtones sont sommés de quitter leur logis. Pour Christian Messier, membre de la chaire du Canada sur la résilience des forêts face aux changements globaux, la forêt boréale encaisse difficilement le choc du mercure qui grimpe. Les feux en Alberta, c'est naturel, certes, et la forêt boréale a un cycle court, 100 à 200 ans. Les incendies sont donc fréquents, mais on voit un schéma s'installer ces dernières années. Moins de neige, un printemps hâtif, plus chaud. Tout est plus sec et donc propice à ce que les forêts s'enflamment davantage, ce qui arrive de plus en plus au printemps. Si dans les forêts boréales, du nom de Boré, le dieu grec du vent du nord, le feu est fréquent, c'est en raison des arbres qui les peuplent, principalement des conifères, et du manque de pluie. Les arbres ont développé des résines pour lutter contre les insectes, mais les résineux brûlent très facilement. Et l'Alberta est particulièrement sec. La précipitation moyenne est faible, entre 4 et 600 mm d'eau par an. Au Québec, on dépasse les 1000. À cela s'ajoutent les épidémies d'insectes. Quand le sol des arbres manque d'eau, les espèces ferment leurs stomates, les pores à la surface des feuilles, qui permettent les échanges de gaz entre la plante et l'air. Ainsi, elles évitent de transpirer, mais cela empêche la photosynthèse, ce qui fait que l'arbre a moins d'énergie pour résister aux insectes et meurt plus facilement. Augmenter la population de feuillus qui brûlent moins. Lorsque la forêt boréale prend feu, c'est toute la terre qui s'étouffe, car elle relâche par unité brûlée 10 à 20 fois plus de CO2 que les autres écosystèmes et elle en émet davantage que par le passé. Une étude publiée dans la revue Science a montré qu'en 2021, les émissions de CO2 dues à des feux boréaux ont atteint un nouveau sommet. En temps normal, elle représente 10 % de la totalité des émissions causées par des incendies, mais en 2021, c'était près du quart. Pour Christian Messier, Si l'on veut aider les forêts boréales à combattre les effets du réchauffement, il faut les diversifier. Les feuillus brûlent moins, alors que les épinettes, elles, prennent feu vite. Une solution, c'est donc d'augmenter la quantité de feuillus. Ça va prendre beaucoup de temps, mais on peut commencer. Il faut multiplier les espèces. Avec le réchauffement climatique, les scientifiques anticipent une remontée de la forêt boréale vers le nord, grignotée par la forêt tempérée. D'ici 100 ans, la partie septentrionale va disparaître. Cela va devenir trop chaud, trop sec. Tout ce qui pourra pousser, ce sont des graminées, explique Christian Messier. La pluie qui tombe depuis lundi 8 mai en Alberta a fait du bien aux pompiers qui tentent de circonscrire les feux. Ils ont pu travailler dans des zones de haute intensité où les flammes étaient au départ trop fortes. Mais le répit risque d'être bref. D'après Ressources naturelles Canada, l'Alberta fera face à un risque d'incendie extrême avec des températures flirtant avec les 30 degrés Celsius. C'était « Feu au Canada, pourquoi la forêt boréale brûle si facilement ?» un texte de Alexis Gacon, paru le 10 mai 2023. C'était « Feu au Canada, pourquoi la forêt boréale brûle si facilement ?» un texte de Alexis Gacon, paru le 10 mai 2023 dans la revue Reporter.
Faudrait-il protéger les langues? Un texte de Maxime Penneau-Jobin paru le 10 juin 2023 dans la presse. Chaque fois que j'écris sur la question linguistique, je reçois un certain nombre de courriels de gens qui ne voient pas du tout l'intérêt de protéger le français. Tant que je suis en mesure de combler mes besoins, je ne vois pas le problème. L'anglais est la langue de l'argent, la langue internationale, c'est la loi du plus fort. L'important est d'être compris. C'est juste un moyen de communication. Les langues évoluent, disparaissent et puis après, etc. Ce sont des opinions tout à fait valables. Permettez-moi quand même d'essayer d'ébranler un peu ces certitudes. Je le ferai en répondant à une seule question. Qu'est-ce qu'une langue? Une langue, c'est notamment trois choses. Le véhicule d'une vision du monde, le véhicule d'une culture et, plus important que tout le reste, l'instrument de la pensée. Ce sont trois fonctions essentielles, fonctions qui justifient à elles seules les législations pour la consolidation des langues nationales. Le véhicule d'une vision du monde. La langue porte notre façon de voir le monde. Dans la langue bretonne, la région à l'extrémité ouest de la Bretagne s'appelle Penarbed. Cela veut dire « le début du monde ». Le même lieu a aussi un nom français, Finistère, du latin « finis terre », la fin de la terre. Jokamier et Noikeus, mot finlandais, signifie quant à lui le droit d'accès à la nature pour tous, droit qui a préséance sur le droit de propriété. Les mots portent une vision du territoire. Les Aymaras, peuplades vivant en Amérique du Sud, considèrent que le passé est devant et l'avenir derrière. Le mot « œil » désigne le passé et « dos » représente l'avenir. Les mots portent un rapport au temps. Quand l'Anishinaabe voit au loin une créature s'avancer et qu'il dit « Awiyak », il ne dit pas « voilà un animal » ou « voilà un homme », il dit « quelqu'un est là ». Ce quelqu'un peut être un homme ou bête, la bête ayant en quelque sorte une âme. À l'opposé, les kanjis japonais qui servent à écrire « animal » signifient « chose qui bouge », pas d'âme. les mots portent un rapport à la nature. Il y a, en Afrique, des langues dites à classe. Elles nomment les objets en les rangeant par catégorie, long, comestible, rond, etc. Les mots portent aussi une façon d'ordonner l'univers. C'est grâce à cette diversité de regards sur le monde que l'être humain construit des sociétés originales, des chefs-d'œuvre distincts, des nations distinctes. L'épanouissement des langues devrait être l'obsession des gens qui croient en l'importance de la diversité. Les langues en sont la source. Le véhicule d'une culture. En Inuaimun, la langue des Inuits, Pétekat exprime simultanément « prends ton temps » et « fais attention ». Au sens premier, le mot veut dire « poser le pied tranquillement en hiver pour ne pas tomber ». Nos origines se retrouvent dans nos mots. La langue porte nos expériences. En fait, c'est l'identité même d'une communauté humaine qu'on retrouve dans une langue. Nos langues sont nées de notre histoire, lac à l'épaule, de notre environnement, poudrerie, de notre humour, accouche qu'on baptise, de nos héros, avoir la tête à papineau, de nos rencontres, mocassins, anorak, rabaska. Des générations entières y ont laissé la trace de leur vie, dirait l'écrivain hongrois Dezo Kostolányi. Perdre une partie de sa langue, c'est perdre une partie de son univers. L'instrument de la pensée. Les langues sont les instruments de la pensée, des instruments d'analyse et d'abstraction. Penser sans les mots est impossible. Langue pauvre égale pensée pauvre. Si tout le monde a les mêmes mots, la même langue, on diminue la probabilité d'innovation. À l'inverse, une langue exacte, précise, riche est une langue qui stimule toute la capacité créatrice de l'esprit. L'ancien premier ministre Bernard Landry répétait souvent une phrase qui résume à elle seule toute l'importance de la préservation des langues. Je ne sais pas si je le cite avec exactitude, j'y vais de mémoire. La diversité des langues et des cultures est à la vitalité de la pensée humaine ce que la biodiversité est à celle de la nature. Sans cette diversité, la pensée s'atrophie. Oui, il faut saluer l'existence d'une ou de plusieurs langues internationales. Oui, le multilinguisme individuel est une bonne chose. Là n'est pas la question. L'enjeu, c'est l'épanouissement des langues nationales. 25 langues meurent chaque année. D'autres ne meurent pas, mais s'appauvrissent, comme la nôtre. D'ici un siècle, l'humanité aura perdu la moitié de son patrimoine linguistique. Elle aura perdu la moitié de sa capacité d'inventer un monde meilleur. C'était « Pourquoi faudrait-il protéger les langues ?» un texte de Maxime Penneau-Jobin paru le 10 juin 2023 dans la presse. La maison Jean Lapointe s'installe à Ahuntsic. Un texte de Amine Esseguir, paru le 16 juin 2023 dans le journal des voisins. D'ici 2 ans, si tout se passe comme prévu, la maison Jean Lapointe aura son siège à Ahuntsic. L'organisme vient d'acquérir l'immeuble de l'Institut Notre-Dame du Bon Conseil. Il servira à l'hébergement et au traitement de personnes souffrant de dépendance. Anne-Élisabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean Lapointe, organisme créé par son père, a dévoilé la grande nouvelle dans le jardin de l'Institut ce jeudi 15 juin. La Maison Jean Lapointe, en collaboration avec les Sœurs du Bon Conseil, annonce aujourd'hui qu'elle fait officiellement l'acquisition du bâtiment de l'Institut Notre-Dame du Bon Conseil de Montréal. Le bâtiment actuel de la Maison Jean Lapointe, dans le Vieux-Montréal, où nous offrons nos services depuis plus de 40 ans, sera bientôt mis en vente, a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse à laquelle a assisté le journal des voisins. Datant de 1953, le couvent situé au 665 et 649 boulevard Gouin Est ne subira pas de transformation extérieure. Seules les chambres seront adaptées. Deux jardins verdis seront également aménagés sur l'emplacement de deux espaces de stationnement, a appris le journal des voisins. Une quarantaine de personnes pourront y être logées. Avec cette nouvelle acquisition, la maison Jean Lapointe veut aussi faire évoluer et diversifier ses services. Sœur Angèle reste. Alors que le bruit courait que la communauté des Sœurs du Bon Conseil allait vendre la propriété, Sœur Angèle, figure connue notamment pour ses conseils gastronomiques dans tout le Québec, s'était interrogée sur son sort. Elle habite depuis 2008 la vieille maison de ferme dite « Maison Boucher », datant de 1860, qui fait partie de la propriété de la communauté religieuse. Sœur Angèle s'était confiée à la journaliste Michèle Lemieux dans le magazine 7 jours. Elle se demandait si elle allait devoir déménager. Finalement, la direction de la maison Jean Lapointe a décidé de la maintenir dans les lieux pour autant de temps qu'elle le désire. La décision a été prise récemment, a déclaré Sœur Angèle au journal des voisins. C'est là où elle concocte ses recettes, organise ses multiples activités et reçoit ses nombreux admirateurs. « Pour les gens, c'est comme un rendez-vous », a convenu Sœur Angèle. Devant l'assistance, elle a souligné qu'elle n'était pas prête non plus à aller dans une résidence pour personnes âgées. Les autres religieuses qui habitent le couvent déménageront en septembre. Elles seront 24 sur 30 à se rendre à la résidence Les Pionnières, qui se trouve à Saint-Laurent et où résident déjà des consœurs de 7 autres communautés religieuses, a appris le journal des voisins. Les archives importantes de la communauté devront être ultimement transférées au nouveau Centre des archives religieuses et du patrimoine du Grand Montréal qui sera situé dans le Vieux-Longueuil. Dans nos plans de réaménagement, on conserve le même nombre de lits, a mentionné Mme Lapointe. On veut être en mesure d'aider plus de jeunes. C'est à l'extérieur du bâtiment où on veut être capable d'aider plus de familles et éventuellement mener des projets qui ne touchent pas nécessairement le traitement directement. C'est plus de la réinsertion ou de l'accompagnement. C'est pour cela qu'on veut plus d'espace pour avoir plus de moyens de travailler. Dans la sérénité. Cette vente est saluée par les élus de l'arrondissement. Le changement de vocation et de mission de l'édifice n'aura pas d'effet sur la quiétude des lieux. Quand l'édifice et le terrain ont été mis en vente, on avoue qu'on a eu un peu peur, a confié Émilie Thuillier, mairesse d'Ahuntsic, Quartierville, à l'assistance. Elle a tenu à remercier les sœurs qui, selon elle, avaient les mêmes objectifs. Sœur Gisèle Turcot, supérieure générale de la communauté des Sœurs du Bon Conseil, a expliqué que la vente de leur bâtiment a été décidée quand les religieuses ont vu qu'il devenait trop grand pour leurs besoins et activités. Toutefois, la vente ne pouvait pas, selon elle, se faire à n'importe quelle condition. Elle souhaitait vendre à un organisme capable de maintenir le bâtiment dans le même esprit que la communauté religieuse fondée il y a 100 ans par Marie Gérin-Lajoie. « Nous avons prié pour trouver un organisme à vocation sociale », a-t-elle admis. Les religieuses voulaient aussi trouver un nouvel acquéreur qui respecte l'environnement. La propriété de plus de 10 000 mètres carrés est à proximité de la station de métro Henri-Bourassa et à un jet de pierre du bord de l'eau. Jouxtant le pavillon du parcours Gouin, l'Institut aurait pu intéresser n'importe quel promoteur immobilier. Imaginez dans un contexte domiciliaire si nous étions obligés de vendre à un organisme qui aurait bâti en hauteur ou qui aurait peut-être démoli. Nous ne voulions pas être obligés de faire face à cela, confiait Sœur Gisèle Turcot. Acceptabilité sociale. La nécessité d'être en phase avec le voisinage fait aussi partie des préoccupations des dirigeants de la maison Jean Lapointe. Nous avons vraiment l'intention de respecter la quiétude des lieux, a assuré Anne-Élisabeth Lapointe. Nous avons déjà eu l'opportunité avec Jean-Marie Lapointe, frère d'Anne et Élisabeth, accompagné de sœur Gisèle et de sœur Sylvie, de faire du porte-à-porte, de rencontrer quelques voisins et voisines. nous avons vu que les gens étaient très heureux de savoir que c'est la maison Jean Lapointe qui s'installait. Des citoyens ont effectivement exprimé leurs inquiétudes, notamment lors de la séance de consultation publique du 14 juin, durant laquelle le Journal des voisins était présent, tenu dans le cadre du processus de changement d'usage du bâtiment. Trois résidents des environs s'étaient présentés au micro pour demander quelles étaient les répercussions sur le voisinage une fois que sera ouvert le centre de réadaptation pour des personnes souffrant de toxicomanie ou de dépendance. Les préoccupations des gens ont été répondues en amont. Donc, pour ma collègue Nathalie Goulet, conseillère de la ville à Hantzik, et moi-même, j'oserais dire qu'on ne pouvait rêver mieux comme occupation pour remplacer un couvent. Parce que c'est sûr, vous le savez, les gens ont déménagé là parce que des sœurs, c'est tranquille, a relevé Madame Thuillet. Les gens qui bénéficient des services de la maison Jean Lapointe sont souvent des citoyens de toutes conditions, aux prises avec des dépendances. De plus, les services sont payants. La maison Jean Lapointe est un organisme sans but lucratif fondé il y a 41 ans par le comédien, humoriste, chanteur, sénateur et mécène Jean Lapointe, décédé en novembre 2022. L'organisme a pour mission d'aider par le traitement, la prévention, le soutien et le partage des connaissances en matière de substances et de dépendance. Au moins 40 000 personnes ont reçu l'aide de la maison et plus de 1 million de jeunes ont été sensibilisés aux risques liés à la consommation de toute substance. C'était la maison Jean Lapointe s'installe à Ahuntsic, un texte de Amine Esseguir, paru le 16 juin 2023 dans le journal Des voisins. Une exposition sur le sommeil qui va vous maintenir éveillé. Un texte de Virginie Soffer, paru le 15 juin 2023 dans UDM Nouvelles. Fruit de 2 années de recherche-création, l'exposition Insomnolence sera présentée du 21 juin au 13 juillet. Que savons-nous sur le sommeil et quelles sont les formes de sociabilité possibles par rapport au sommeil? Pour explorer ces sujets, une équipe interdisciplinaire composée de chercheurs et chercheuses en psychiatrie, en psychologie et en médecine, venant des 4 universités montréalaises ainsi que des spécialistes du cinéma et des médias, s'est réunie dans le cadre du projet de recherche Création, la sociabilité du sommeil. Plusieurs membres de cette équipe enseignent au département de communication de l'Université de Montréal, Alexandra Kaminska, Nathalie Dounan et Albertine Tunier. On retrouve également de l'UDM Antonio Zadra, directeur du laboratoire de recherche sur les rêves et professeur titulaire au département de psychologie, Thor Nielsen, professeur titulaire au département de psychiatrie et d'addictologie, et Claudia Picard-Delande, doctorante en neurosciences. L'équipe a travaillé étroitement avec 14 artistes et créateurs durant 2 années de recherche pour développer son exposition finale « Insomnolence ». Menée par la professeure Alexandra Kaminska ainsi que la professeure Alana Tain de l'Université McGill, le projet a été financé grâce au Fonds Nouvelles Frontières en Recherche. Toutes deux signent le commissariat de l'exposition avec Marianne Cloutier, enseignante au DESS en art, création et technologie de l'Université de Montréal. L'exposition bénéficie aussi du soutien de la subvention Connexion du Conseil de recherche en sciences humaines, de la bourse Mitax Élévation, des contributions du réseau Hexagram ainsi que du partenariat Synex Media. Provenant de recherches expérimentales, l'exposition sera présentée du 21 juin au 13 juillet 2023 à l'Agora Hydro-Québec du cœur des sciences de l'UQAM. Explorer la sociabilité du sommeil. S'il y a une expérience qui nous semble profondément personnelle, c'est celle de dormir, où nous nous coupons momentanément du monde extérieur. Mais est-elle si individuelle? Nous vivons tous et toutes avec les conséquences de perturbations du sommeil, les nôtres ou celles des autres. Le sommeil est un problème partagé, commençant avec la pression sociétale d'une productivité sans cesse plus accrue au détriment du repos. Insomnolence propose de réfléchir aux expériences partagées et partageables du sommeil et aux façons dont nous pouvons prendre soin du sommeil de manière plus ouverte et collective, explique Alexandra Kaminska, co-commissaire de l'exposition. Des artistes s'expriment sur le sommeil. En provenance de Thaïlande, de Taïwan, de France, des États-Unis, d'Angleterre, mais également de Montréal, 14 artistes et créateurs présenteront des œuvres sous la forme de performances, de vidéos, d'installations multimédia, de radiodiffusion et autres. L'équipe montrera aussi des traces de ses recherches. C'était une exposition sur le sommeil qui va vous maintenir éveillé. Un texte de Virginie Soffer paru le 15 juin 2023 dans UDM Nouvelles.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Robert Chartier. À la lecture, Diane Métaillé et Francine Thériault. À la recherche, Nicolas Wartmann. À la présentation et au montage.